Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Le Rallye des Gazelles est un événement unique en son genre. Un raid de navigation féminin 100% hors-piste au cœur du Sahara marocain. Armés d'une boussole, d'une bonne coéquipière et d'une carte, les participantes n'ont ni GPS, ni téléphone, ni joker à leur disposition. La navigation se fait à l'ancienne. Il faut taper des balises et savoir gérer les triangulations si on veut arriver chaque soir à bon port. La pétillante Marine Vigne, journaliste télé, créatrice de mode et super influenceuse, s'est embarquée dans cette aventure avec l'une de ses meilleures copines et nous a tout raconté. Dans cet épisode, elle nous plonge dans les coulisses de la préparation de ce raid sportif et vraiment wild. Elle nous dévoile les dessous de la navigation et de la conduite dans des conditions extrêmes, les folles nuits au bivouac avec les 200 autres nanas de la course, les looses, quelques triches et les rations militaires qui ont pimpé sa semaine de raid. Après une heure avec Marine, je rêve déjà de prendre la route. Bonjour Marine.
Bonjour Marie.
Je suis tellement contente parce que je rêve de faire le rallye des gazelles. Donc je veux toutes les infos, les galères et tes bons plans. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ?
Je m'appelle Marine Vigne, j'ai 51 ans, je suis présentatrice de télévision depuis 30 ans. Et depuis quelques années, j'ai monté une marque de vêtements. Et en parallèle, je me suis un petit peu intéressée à cette activité sur les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence. Donc voilà, je suis devenue un peu ce qu'on appelle une Instagrammeuse. Enfin, le mot est pas canon.
Et est-ce que tu aimes l'aventure à la base ?
Ouais, j'adore l'aventure. Je pense d'ailleurs que j'ai toujours aimé l'aventure. J'ai toujours eu un petit côté comme ça, un peu, tu sais, le fait de foncer la tête baissée, quoi. Et pourtant, je suis pas taureau, je suis pas bélier, je suis balance, pour tout dire, donc même plutôt dans l'équilibre. Mais j'ai pas ce côté balance de s'interroger, de douter, d'avoir du mal à choisir. Et à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais à fond les ballons. J'ai toujours fait comme ça. Et je sais pas faire autrement, d'ailleurs. Et de temps en temps, on me dit, mais tu devrais prendre un peu de recul. Mais j'en suis incapable, c'est pas dans mon tempérament. Donc oui, j'ai toujours eu ce goût, en fait, pour la nouveauté, pour la découverte. Et puis, j'avoue que, pour le coup, il s'est développé avec l'âge. Et plus ça va, plus j'ai envie de découvrir, plus j'ai envie de voir autre chose que ce que j'ai l'habitude de voir.
Et donc, en quelle année tu fais le Rallye des Gazelles ?
Alors, je fais le Rallye des Gazelles en 2003, ça va faire 21 ans. Donc, je te préviens tout de suite, pour les bons plans.
pour les chiffres
pour les chiffres et les bons plans, On va repasser pour les chiffres et les bons plans parce que je me souviens pas de tout en fait.
Tu avais un bebop et un.
J'avais rien du tout, tu rigoles. On avait, en plus, on a le droit à rien là-bas. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai oublié certains détails. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'aventure, l'expérience reste intacte, quoi. C'était une putain d'expérience.
Mais qu'est-ce qui te pousse un jour à faire ce rallye des gazelles alors ?
C'est mon amie Carole Gerland, qui était ma grande copine à l'époque. On avait eu nos enfants ensemble. Nos filles étaient petites. Elles avaient 6 ans et on se voyait beaucoup avec les enfants et pour les vacances, etc. Et c'est Carole, en fait, qui s'est retrouvée un peu par hasard à un gala du Rallye des Gazelles et qui est revenue, qui est ressortie de ce truc. Je crois qu'elle m'a même appelée le lendemain ou juste derrière pour me dire « Ah là là, j'ai fait un truc extraordinaire, faut que je t'en parle, faut qu'on se voit, faut que je te raconte. » Elle a été complètement subjuguée par le récit des gazelles sur place qui l'avait déjà fait. Elle était peut-être plus en recherche d'aventure que moi. Je pense que moi, j'avais ma partie d'aventure déjà dans ma vie de tous les jours, parce que je faisais déjà de la télé, et que tu sais, quand tu fais de la télé, en fait, un jour, tu vas t'intéresser à un sujet, un jour à un autre. Et j'étais pas en recherche particulièrement, voilà. Elle avait une vie peut-être un peu plus calée, avec son mari, etc. Et du coup, j'ai vraiment senti chez elle ce besoin d'aller la chercher, l'aventure, tu vois, de s'y frotter, quoi. Et donc, c'est elle qui m'a embarquée, c'est elle qui m'a convaincue.
Tu lui as dit oui tout de suite ?
Moi, assez rapidement, ouais, en fait. La question était plus dans quel terme tout ça était faisable, tu vois, par rapport aux enfants, par rapport au planning, par rapport au travail. Mais une fois que le problème a été résolu, ouais, j'ai plongé la tête la première dans l'histoire avec elle, quoi.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, en fait, le principe du rallye des gazelles ?
Alors, le rallye des gazelles, c'est un rallye exclusivement féminin et exclusivement d'orientation dans le désert du Maroc. Donc, ça veut dire qu'il n'y a évidemment que des femmes qui participent au rallye. Elles peuvent être en voiture, donc 4x4, hein, forcément, ou quad, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je pense que oui. Peut-être moto aussi, on a peut-être des motardes, il faudrait qu'on vérifie ça. Et la grande différence, par exemple, par rapport à un rallye type Dakar, mais enfin encore que j'ai honte d'oser le comparer au Paris-Dakar, mais parce qu'évidemment, toute la partie trial est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile, hein, sans commune mesure. Mais en revanche, on n'a aucun GPS, c'est-à-dire tu es obligé de te déplacer, d'aller d'un point à un autre avec ta carte et ta boussole. Et alors ça, ça a l'air de rien. Hein. Franchement, sur le papier, tu dis « bon oui, je vais arriver à lire une carte, bah oui, bah, la boussole, j'en avais une quand j'étais gamine ». Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est très compliqué. Et c'est, je trouve, le vrai challenge. Et l'idée d'ailleurs, c'est d'aller toper les balises, parce que tous les jours, tu dois aller taper une balise, taper, bon, atteindre ta balise en tout cas, en un minimum de kilomètres. Donc, tu dois quand même optimiser ton déplacement.
Ton circuit.
Ouais. Le problème, par exemple, c'est que tu pars du point A pour aller au point B. Puis, tu as une énorme montagne au milieu, sur ta carte. Il faut apprendre à lire les reliefs, parce qu'au début, tu vois juste genre, OK, bah, c'est super, là, il y a cap 60 degrés
facile.
Nord. Et bim, on va toper la balise. Ouais, puis, sur le terrain, en fait, quand tu arrives à 60 degrés nord pendant un certain nombre de kilomètres, d'un coup, au milieu se dresse un espèce de monticule. Tu fais, ah mince, OK, il faut contourner. Donc, c'est là que ça devient compliqué, parce que pour contourner, il faut recalculer. Il faut calculer le cap que tu vas prendre, puis le cap que tu vas reprendre après, que tu l'auras contourné, pour récupérer ton cap initial. Ça m'a donné des suées, des sueurs froides.
Mais est-ce qu'on te prépare avant, justement ? Alors, dis-nous, donc, tu dis oui à Carole. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la course ? Comment ça se passe ?
Alors, une fois qu'on se dit « OK, on y va », on s'inscrit. Donc là, il faut réunir une certaine somme. Je ne me rappelle plus très bien, mais quelque chose comme 30-40 000 euros. C'est assez cher, l'inscription. Et l'idée, donc, c'est de trouver le financement, la voiture et le financement. Alors, nous, c'est vrai qu'à l'époque, Carole étant mannequin et moi, je travaillais déjà à la télévision, on a fait appel à des marques cosmétiques, beauté. Donc, voilà, on a eu la chance d'avoir Jacques Desange, puisque Carole avait déjà travaillé avec Desange en mannequin. Et moi, je me suis adressée à Nux et ils ont été d'accord. Derrière, on a eu un magazine, parce que, évidemment, pour que les marques te suivent et te donnent des sous, il faut bien qu'il y ait un relais média.
Visible, ouais.
De la visibilité. Donc, on a réussi à avoir Votre Beauté, mm-hmm. qui était d'accord pour monter une équipe Votre Beauté. On avait la couverture comme ça du magazine sur notre voiture. Et puis, les sponsors affichés partout sur tes t-shirts. Donc, tout ça, c'est des trucs que tu fais imprimer toi-même. Hein. Tu vas faire imprimer tes stickers, tu vas faire imprimer tes t-shirts, tes casquettes, tes trucs. C'est assez rigolo, d'ailleurs, de prendre le truc comme ça, de A à Z. Et puis après...
Ta voiture.
La voiture. Il a aussi fallu trouver un constructeur automobile qui était OK pour nous prêter une voiture. Et là, on a eu la chance, je ne sais plus comment, on a rencontré par un copain, Nissan, les gens de chez Nissan, qui nous ont passé un GR Patrol. La classe. Tu nous vois les deux blondes, là, dans le GR Patrol, un gros truc énorme. Ah, c'était chouette. C'était fou, mais c'était chouette.
Ouais. Et eux, ils te l'ont donné à Paris ou ils te l'ont livré au Maroc?
Non, alors ils nous l'ont donné à Paris, sauf que le départ du Rallye des Gazelles s'effectue. Tu peux choisir de faire absolument tout le convoi, de partir de Paris, arriver jusqu'au point de départ, donc qui est en effet après l'Atlas. Il me semble qu'on n'est pas parti de Merzouga, mais pas loin, enfin, dans ce coin-là. Il faut traverser l'Atlas. Ou alors, tu pouvais te faire livrer à 7, d'où les voitures prenaient le bateau. Pour des soucis de temps de voyage, voilà, Nissan a accepté de nous livrer la voiture à 7, ce qui nous a fortement arrangé. Donc, on a pris le train jusqu'à 7. Et de là, on a récupéré la voiture. Ensuite, on a fait la traversée en bateau. Puis, on est arrivé à Fès, il me semble. Et ensuite, on a traversé le Maroc, traversé l'Atlas pour passer de l'autre côté. Et ensuite, on avait une petite journée, je crois, de battement. Et ensuite, on a pris le départ de la course.
Donc, tu as des sous. T'as
on
une
a
voiture.
On a la voiture.
Tu as une coéquipière.
J'ai une coéquipière.
Est-ce que tu apprends à conduire? Comment
alors,
ça se passe?
Oui, forcément. Alors, ça, c'est tout le truc. Parce que, évidemment, il y a plein de femmes qui font ce rallye, qui sont déjà rodées avec l'activité sportive, tu vois, de rallye. Nous, ce n'était pas du tout notre cas. Donc, il fallait qu'on apprenne quand même à conduire un peu mieux que ce qu'on fait dans les rues de Paris. Accessoirement, être capable de passer quelques obstacles. Puis, il y a des trucs, en fait, à savoir, tu vois. C'est tout bête, mais il y a vraiment des petites choses à apprendre qui, tant que tu les connais pas, tu peux pas le deviner. Voilà. Et puis, il y a cette fameuse orientation. Ça aussi, je pouvais pas l'inventer, tu vois, parce que l'orientation, bien évidemment, c'est prendre ton cap donc avec ta boussole, mais il faut savoir que ta voiture crée un champ magnétique, donc tu ne peux pas prendre ton cap depuis ta voiture, donc tu es obligé de sortir et de t'éloigner de la voiture. Donc, autant te dire que tu passes ton temps à courir dans tous les sens pour t'éloigner de la bagnole, puis revenir en courant la voiture, parce que l'idée, encore une fois, c'est d'arriver aussi les premières, enfin, tu vois, de perdre le moins de temps possible.
C'est quand même une course.
Alors, c'est une course, encore une fois, c'est pas tant le temps, c'est surtout que tu es prise par le lever du soleil et le coucher du soleil, puisque comme c'est une course d'orientation, tu ne peux t'orienter qu'à partir du moment où tu vois quelque chose.
D'accord.
Parce que pour prendre ton cap, tu es obligé de viser un objectif. Tu ne prends pas ton cap comme ça dans l'absolu, puisque tu sors de ta voiture, tu vas prendre ton cap, okay, tu prends ta boussole, tiens, au loin, je vois... Je te dis n'importe quoi, un arbre, c'est sûrement pas le cas dans le désert du Maroc, mais un caillou, un peu plus gros que les autres, une grosse pierre. Ok, très bien, pim, tu la prends. Tu remontes dans ta voiture et tu ne fais que suivre la direction de la pierre. Tu peux pas suivre sur ta boussole dans la voiture. Là, ta boussole dans la voiture, elle est affolée. Donc, tu es obligé de visuellement voir quelque chose. Si tu ne vois rien, tu es obligé de t'arrêter.
D'accord.
Et d'ailleurs, on a eu un jour une tempête de sable. Bon, bah, tempête de sable, tu vois plus rien. Tu es dans un brouillard de poids, tu vois plus rien. Tu t'arrêtes, tu ne peux pas avancer. Parce qu'en plus, au-delà de te perdre et d'aller n'importe où, tu peux en plus tomber dans un trou, dans un ravin, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ça peut être très dangereux. Donc, tu es obligé de t'arrêter dès lors que tu ne vois rien. Donc, c'est là-dessus que tu es un peu speed. Parce que le lever du soleil et le coucher du soleil sont immuables et qu'il faut que tu fasses avec. Donc, tu évites de perdre du temps. Donc, d'ailleurs, on ne s'arrêtait pas pour déjeuner. On attrapait des compotes dans la voiture.
Et ça, tu vas nous parler de ton régime rallye.
Ouais, un régime extraordinaire. Ouais, j'ai perdu 5 kilos, c'était top. Donc, voilà.
Oui, donc tu disais la préparation.
Et je te disais, alors la prépa
et
la nave. Alors ça, on avait eu un stage, donc je crois que c'était peut-être en janvier, quelque chose comme ça, 3-4 mois avant le rallye. Je ne me souviens plus non plus où c'était, mais on est allé en train. Je crois que c'était dans le nord de la France. Et là, tu as un terrain accidenté spécial pour un entraînement au trial avec des 4x4, etc. Et tu as des instructeurs qui t'expliquent que... Alors, c'est-à-dire quand tu fais du trial, il faut que ton train avant et ton train arrière puissent être dissociés.
D'accord.
L'un de l'autre. Parce qu'en fait, si tu perds le contact d'un côté, il faut que tu puisses le récupérer de l'autre. Donc, ça c'est ton essieu, en fait, tu vois, qui doit être mobile entre les deux. Donc, tu apprends des petites choses comme ça pour au cas où. Tu apprends également, par exemple, que pour passer une dune, il faut que faut avoir le plus d'adhérence possible. Donc, il faut que tes pneus soient dégonflés. Donc, avant de passer des dunes,
tu
descends de ta voiture, tu vides de l'air dans tes pneus jusqu'à avoir une certaine pression. Donc, tu as en plus un compresseur avec toi pour faire tout ça. Et puis, quand tu as fini de passer les dunes et que tu te retrouves à nouveau dans le désert de Kayas, il faut les regonfler, parce que si tu as trop d'adhérence au sol, tu as plus de possibilités de crever, plus de chances de crever. Donc, il faut regonfler tes pneus. C'est fatigant, je te jure, à la fin, on n'en pouvait plus, on restait dégonflés tout le temps. On ne suivait pas les conseils de Marie Nossard.
Hein.
Et on a crevé d'ailleurs, on a dû changer un peu. Mais bon, après, c'est des choses, c'est pareil. C'est, ça te semble insurmontable sur le moment et puis tu finis par le faire.
Donc tu fais le stage et est-ce que tu dois décider à ce moment-là s'il y en a une qui conduit, une qui fait l'orientation? Est-ce que chacune a une mission ou bien tout le monde est interchangeable?
Alors ça, ça dépend complètement des équipes, en fait, de ce que les participantes ont envie de faire. Certaines avaient vraiment des personnes dédiées à la conduite et d'autres à la nav, notamment toutes celles qui avaient déjà participé à des rallyes. Si elles connaissaient un peu leurs points forts, elles savaient, connaissaient leurs skills, quoi, leurs qualités. Nous, pour le coup, on a fait la formation, c'était un week-end, je crois qu'on est parti 2-3 jours. On s'est dit à la fin, la nav, ça a l'air un peu relou. On va alterner quand même, hein, parce que c'est sympa de conduire. Il y a un côté assez fun, tu vois, dans la conduite. Là, tu touches au...
C'est l'adrénaline, quoi.
Ouais, c'est ça, tu touches à l'expérience à proprement dite, quoi. C'est-à-dire, ouais, tu roules, t'es là, tu passes dans les trucs, ça secoue dans tous les sens. Enfin, c'est rigolo. Donc, on avait décidé d'alterner. Bon, sur le papier, en fait, je pense que ma coéquipière avait moins grande sensibilité que moi pour la navigation. J'ai toujours été un petit peu matheuse, moi. Je suis bien avec les chiffres, c'est pas un truc qui me gêne. Bon, bah du coup, on s'est dit que c'était plus simple que je fasse la nav.
Donc, t'as pas beaucoup conduit?
Donc, j'ai conduit, mais plutôt sur les trucs un peu difficiles. Mais la plupart du temps, c'est Carole qui conduisait. Moi, je me suis occupée de... Mais finalement, j'ai pris goût aussi, hein, d'un autre côté, tu sais, au calcul, au fait de... Parce que ça reste le point le plus important de ce rallye. Finalement, je pense que, je vous l'ai dit, le trial, il y a une partie trial, bien sûr. C'est même ça qui est rigolo aussi. Mais la conduite, ça reste assez, assez basique, en fait. Donc... Le vrai moyen de te démarquer par rapport aux autres équipes, c'est d'assurer en navigation. Donc, je me suis prise au jeu. Et même si, de temps en temps, j'avais plus envie de conduire quand même. Mais voilà, bon, je l'ai fait en tout cas. Et je l'ai fait avec plaisir.
Et pendant la journée, on papote, on écoute de la musique, on fait quoi? Ou on est méga concentré et finalement...
Ah ben alors ça, en fait, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Donc, il y a des jours, c'est porte-nawak, tu rigoles, tu papotes, en effet, je ne sais pas si on avait de la musique, mais en tout cas, tu es dans ton truc, tu vois, très excité, très machin, puis il y a des moments où c'est le silence le plus total, où tu es juste en train de te dire, merde, je suis perdu.
Et qu'est-ce qui se passe quand tu te perds?
Ah ben,
tu
es dans la merde, hein. Alors, tu n'as donc aucun GPS et aucun moyen de communication, tu n'as pas de téléphone, on te prend ton téléphone portable.
On te le prend,
okay. Tu pars sans, tu le donnes à Dominique Serra, l'organisatrice, et tu pleures parce que tu dis, oh, je ne vais pas pouvoir parler à ma fille pendant plusieurs jours, mais tu le fais. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, il y a des fouilles de voitures organisées, parce qu'il y a des nanas qui parfois, tu vois, se passaient un autre portable en loose day. Bon, à l'époque, encore une fois, c'était
ouais,
pas...
Mais aujourd'hui, t'imagines tout ce que tu pourrais
bien
avoir
sûr.
Dans ta voiture.
Alors, à l'époque, on n'avait pas les portables qu'on a là, mais t'avais quand même des moyens de communication, tu vois. On avait quand même des portables. Bon, bref, on ne l'avait pas. Donc, le problème était réglé. Donc, tu as des balises, et là, tu as deux sortes de balises. Tu as une SARSAT, qui est vraiment la balise à déclencher en cas d'énormes problèmes. Mais tu perds des points. Si tu déclenches tes balises, tu perds des points. Donc, tu es moins bien dans le classement. Et puis, tu as une autre balise, qui est une petite balise, enfin, une balise de secours un peu plus simple, genre un petit problème technique, t'es perdu, t'es malade, voilà. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, c'est cette balise que tu déclenches. Dès lors qu'il y a un vrai gros problème, c'est la SARSAT. Et là, ils arrivent en hélico, etc. Donc là, la SARSAT, il ne faut pas du tout t'amuser à la déclencher.
Comment ça se déclenche, une balise? Et à quoi ça ressemble, une balise?
Un talkie-walkie.
D'accord.
Talkie-walkie, ouais. Et
d'ailleurs, donc, tu as deux talkie-walkie.
Ouais, tu as deux gros talkie-walkie.
Que tu peux allumer en cas de problème.
Et d'ailleurs, un jour, on a fait une bêtise parce qu'on s'est perdu. Et on a voulu aller repérer le terrain en marchant. Et le problème, c'est que tout se ressemble là-bas. Donc, tu passes dans des petits ravins, puis un autre petit ravin, puis un autre petit ravin, pour arriver en haut de la montagne où on voulait aller. Bon, montagne qui, accessoirement, a l'air d'être à 5 minutes de ta voiture et qui se trouve à 3 quarts d'heure, pour info. Ça, c'est quand même très particulier aussi. Et quand on arrive en haut, en fait. Bon, on se dit, bon, ok, laisse tomber, on est vraiment paumé. On a bien fait d'aller vérifier, on est vraiment paumé, en fait. Et quand on a voulu redescendre, on ne retrouvait pas le petit ravin qui nous amenait à notre voiture. Et là, on s'est dit, putain, on est parti sans la SARSAT. Ça, c'est une énorme connerie. On aurait
d'accord.
dû partir
ouais,
avec.
Elle doit quoi. Toujours être avec toi, quoi.
Tu ne dois pas la laisser dans ta voiture, parce que voilà, la preuve est qu'on a fini par trouver la voiture, mais ah, tu te rends compte si on l'avait pas retrouvée.
Des flips.
Catastrophe. Ouais, on a eu très peur, là. Ce jour-là, on s'est vraiment fait peur. Donc voilà, donc tu as ces balises, tu peux déclencher. Et tu perds tes points. Voilà. Quand tu passes dans les villages, il faut prévoir dans ta voiture d'ailleurs, tu rencontres, tu vas vraiment dans le sud du Maroc, c'est d'ailleurs assez incroyable, la pauvreté des villages là-bas, c'est des maisons en pisé. Alors c'est drôle d'ailleurs parce qu'ils ont tous des maisons en terre comme ça, mais ils ont des satellites, tu sais, des antennes satellites, des paraboles sur le ouais. toit, incroyable. Mais voilà, tous les gamins, évidemment, arrivent autour de la voiture. Nous, on avait prévu des bonbons, des stylos, des cahiers, des choses à leur donner comme ça. Et en fait, tu finissais toujours par parler à un ou deux. Ils ne parlent pas le français. Autant au Maroc, on parle français, autant dans cette région-là, ils ne parlent pas le français. On demandait toujours dans le village, tu sais, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, le nom du village. Alors, je me rappelle qu'il y avait un village qui s'appelait MCC. Dans ce village-là, je parle aux gamins et je leur dis MCC, tu sais, en montrant du doigt le truc comme ça. Et les gamins, ils me font MCC, oui, MCC. Je suis, oh, super, on est MCC.
Carole, alors, c'est bon.
C'est bon, on est MCC, tout va bien. Bon, bah c'est là que je me suis trompée, en fait. Hein. Parce qu'après, je ne reconnaissais pas les routes. C'est là que j'ai triangulé, que je nous ai encore plantés encore plus, du coup. Et j'ai compris après, parce que j'ai fait le test ensuite dans les autres villes. Je n'y avais pas pensé. Hein, dans les autres villages, je faisais Marrakech. Oui, Marrakech. OK, d'accord. Vas-y, laisse tomber.
New York.
En fait, ils te disent oui à tout ce que tu dis, les gars. Tu vois, c'est juste... Ils ont envie de te faire plaisir, j'en sais rien, mais bon.
Oui, il y a l'équipe d'avant qui a laissé quelques...
Des consignes.
Que diras, pour les deux blondes derrière, tu diras que...
Non, c'est pas l'ambiance. Franchement, les nanas sont très sympas entre elles.
Mais ça, tu vas nous raconter, parce que tu t'arrêtes en janvier, donc tu fais ton stage de course et tout. Et après, c'est quand la course? En avril?
Oui,
avril,
c'est ça.
Ouais, et qu'est-ce qui se passe jusqu'en avril-mai? Tu rencontres les autres filles? Il y a des moments où vous rencontrez ou...
Non. On a...
Alors, fais ton truc à toi.
Peut-être je me suis un peu trompée sur la date. C'était peut-être plutôt février-mars, je ne sais plus. Mais bon, il s'est passé quelques temps quand même entre le stage et le lancement. Non, je crois qu'on mettait en place nos équipements. Parce qu'attention, il te faut des équipements.
T'as quoi?
Il faut des malles, il te faut des lunettes spéciales s'il y a la tempête de sable. Il te faut justement aussi des masques si jamais ce truc arrive. Et que tu peux plus, parce que ça peut vraiment être très, très, très contraignant. Enfin, toutes les petites choses, si tu veux, pour le confort, ton sac de couchage, ta tente, ta lumière électrique que tu vas trimballer, tout ce qui va te servir à vivre pendant 10 jours, 15 jours, comme ça, un peu à l'arrache, quoi.
T'avais déjà campé, toi?
Non. Non, j'avais jamais campé. Alors là, pour le coup, non. Et ça, c'est rigolo. Alors, tu laisses tes chaussures à l'extérieur, hein, bien sûr, parce que sinon, bonjour la tente. Non, un jour, il nous est arrivé un truc tellement drôle. On s'est réveillé le matin, on n'avait plus le zip de la tente. On ne pouvait plus sortir de la tente, le zip de la tente avait disparu. En fait, il y avait eu du vent pendant la nuit, et le vent nous poussait. Donc, au fur et à mesure, on reculait, tu vois, et ça a fait tourner la tente sur elle-même. Et en fait, on était allongés sur l'ouverture. Mais tu aurais vu notre tronche au réveil, on est là. Mais
il n'y a plus de sortie.
Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'es là dans un mauvais film de science-fiction, genre quelqu'un a scellé la porte, c'est incroyable. Bon, il nous a fallu le temps de récupérer un peu
de
nos esprits pour se dire que le zip était sous nos fesses, quoi.
Et avant de partir, ils t'ont envoyé l'itinéraire? Toi, t'as pu commencer à bosser justement un peu votre parcours et tout, ou t'as aucune info?
Tu as le parcours, mais tu n'as pas du tout tu peux pas commencer à travailler.
D'accord.
Sur par où je vais passer, tu sais pas où sont les balises, parce que encore une fois, t'as un itinéraire, mais Ce que tu dois choper, c'est les balises. Et les balises, tu les découvres au fur et à mesure. Tu peux pas te dire en avance, ah tiens, peut-être qu'entre cette balise et cette balise, j'ai regardé avant le terrain, j'ai vu qu'ici, il y avait un gros truc à contourner. Rien du tout. C'est chaque matin, tu découvres ton roadbook, quoi, et tu te lances. L'idée, c'est, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne vue et les bonnes jumelles. Parce que le nombre de fois où tu montes sur le toit de ta bagnole pour regarder au loin et chercher, et je te jure, une fois, on l'a vu, mais... Dernière minute, quoi. On était là, ça faisait 10 minutes qu'on était sur le toit, regarder dans tous les sens, toutes les deux. Et à un moment, je crois que c'est Carole, parce que moi j'ai une vue de merde, c'est Carole qui m'a fait « Je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas, un tout petit... » Et vraiment, fallait te concentrer, rester longtemps dessus, et en fonction de l'orientation du soleil, d'un coup, tu percevais un petit truc rouge. Et on y est allé, c'était là.
Et c'est quoi, alors?
C'est la balise.
Oui, mais physiquement, c'est quoi?
C'est un petit drapeau rouge en haut d'un mât.
Et quoi? Et comment c'est que tu l'as topé?
Parce qu'il y a des gens au pied
du truc. Il y a des gens.
Oui,
d'accord,
oui.
OK.
Il y a de l'organisation.
Ils disent la voiture 12 est passée là. Et
exact. Et là, tu as deux options. Ou tu es en fin de journée et tu décides de rester à la balise et tu dors à la balise parce que tu sais qu'il va y avoir d'autres filles qui vont arriver. Et donc, tu vas camper là avec, je sais pas, 2, 3, 4
autres
voitures.
Sympa, d'ailleurs, tu vas un peu discuter aussi avec les autres filles, quoi.
Exact, puis tu n'es pas toute seule. Ou tu décides de continuer s'il n'est pas trop tard et que tu peux encore conduire et aller jusqu'au campement. Où là, on a des bivouacs, il y a des bivouacs d'organiser. Alors, je crois que de tête, il y avait peut-être deux étapes marathon sans bivouac, tu vois. Mais la plupart du temps, tous les soirs, tu as un bivouac où tu arrives, tu as des grandes tentes de dresser, le couscous, les douches. Tu peux même aller te doucher, c'est des petites douches, mais ça reste, tu as un filet d'eau, mais tu peux quand même te doucher. Le petit-déj le matin, tout ça, donc c'est assez confortable. Puis là, tu as tout le monde, tu as toute l'organisation, tu as tout le truc, c'est sympa. Et puis les fois où tu te perds ou alors tu as ton étape marathon, tu n'as pas de bivouac. Et tu trouves pas forcément la balise et tu dors au milieu de nulle part toute seule avec ta coéquipière, quoi. Ça arrive aussi.
Carole, là, il y a combien de filles à peu près? Tu te souviens combien vous étiez dans la
course? De tête, on était assez nombreuses, mais je ne saurais pas te dire exactement. Je dirais pareil, 40-50 équipages, quelque chose
D'accord.
comme ça.
Ok.
60 peut-être.
Et l'âge à peu près des filles, tu t'en souviens?
Ouais, pas de toutes jeunes. On était parmi les plus jeunes, donc on avait 30 ans, tu vois. Et les filles avaient globalement 5, 10, 15 de plus que nous. En fait,
D'accord.
je pense que c'était des nanas de 30 à 50 ans. D'ailleurs, plus de nanas un peu plus expérimentées comme ça que de petites, enfin, petites jeunes, d'une trentaine
ouais,
d'années.
Si.
Quoi. Ouais.
Alors, vas-y, raconte comment ça se passe. Donc, le premier matin
Le premier matin, donc, t'es comme ça, toutes les voitures sont rangées, alignées, t'as un discours, et puis et tout le monde doit aller. Alors, c'est très proactif, c'est-à-dire qu'il faut te manifester, tu vois. C'est pas un truc où les gens viennent t'apporter ton truc, te dire il va se passer ci, il va se passer ça. C'est toi, tu te manifestes, tu vas chercher ton roadbook, tu demandes des informations si tu estimes que t'en as besoin, si t'as besoin d'en avoir plus. Et puis après, moi, je me rappelle juste que... Alors, t'as des briefings, hein. Tous les matins, t'as un brief. Hein.
Un peu sur la route que vous allez faire, je sais pas, la météo, etc.
Exactement, okay. La route, la météo, ce qui vous attend. Alors, sans nous indiquer, si tu veux, sans nous aider, on te briefe quand même à te préparer, en gros, à ce qui t'attend. Voilà, donc là, vous allez avoir une étape qui va être physiquement difficile, le trial est dur, ou alors, faites attention, ça va se jouer sur l'orientation, parce que, pour le coup, la route est assez facile, tu vois. Donc, tu sais... Tu pars quand même en sachant où tu dois apporter un peu plus d'attention, quoi, sur à quel poste il va falloir faire le plus attention. Et puis, par exemple, des choses à éviter totalement, tu vois. Typiquement,
D'accord.
il nous parlait des oued et il nous disait, bon, alors s'il pleut, par exemple, il faut faire très attention à ne jamais rester dans un oued. Parce qu'un oued au Maroc...
Ça se remplit en un instant, c'est ça?
Ça a l'air complètement sec, vide. Tu te dis, il n'y a pas une goutte de flotte qui est passée par là depuis 15 ans. Et en fait, si ça pleut fort, comme le sol est complètement perméable, ça gonfle d'un coup, ça rentre, est complètement imperméable, ouais. pardon, ça rentre pas tout de suite. Et tu te retrouves avec des torrents de flotte. Donc, interdiction de rester arrêté dans un oued, surtout s'il fait pas beau. Et voilà, donc tu as des petites choses comme ça sur lesquelles on porte son attention et on t'invite à faire gaffe. Et voilà. Et après, bah, c'est chacun sa gueule. Hein. Tu rentres dans ta voiture, tu prends ta carte, tu prends ta boussole, tu commences à calculer. Ta coéquipière fait chauffer le moteur et...
Hyper excitant.
Et roule ma poule.
Et, pour le et cas, on t'a donné à manger
Alors, oui, pardon. On te donne, en effet, tu pars avec une caisse. C'est l'organisation du rallye qui te le donne. Et c'est des rations militaires. Donc, on a chacune dans ta caisse, tu as autant de rations que de repas. Donc, midi et soir, tu as un petit réchaud. T'as besoin de plein de trucs, en fait. Hein.
Ouais,
ton petit réchaud, tes petites gamelles en métal. Nous, on s'était même pris du vin. Et un tire-bouchon, parce qu'on s'était dit que quand on s'arrêterait, on serait quand même bien
content
de pouvoir se taper l'apéro. On s'était aussi pris des barres de céréales, des trucs comme ça pour manger facile et des compotes, genre en sachet là, pour les enfants. Et puis donc, tu as tes petites barquettes par jour avec une entrée, un plat, une espèce de fromage, tu sais, une pâte à tartiner et un dessert, quoi, une compote. C'était dégueulasse. Donc, on ne les mangeait pas. Donc, en fait, on ne bouffait que les crackers et la pâte à tartiner qui était généralement dans le truc. Et nos compotes et nos barres de céréales, d'où les 5 kilos. Hein. Voilà, comme quoi...
Finalement, c'est facile.
Ah ben, nickel. Ah ben non, parce que c'était vraiment, les trucs n'étaient pas bons. C'est des rations militaires. Donc, t'as beau le faire chauffer, t'as beau faire le truc, c'est imbouffable. En fait, mais tu t'y fais, hein, ça va. C'est juste que quand même, vraiment sur la fin, tu vois, quand tu t'es fait les 7 jours, parce que c'est 7 jours pleins, t'es rincé de chez rincé, mais de tout. De t'être levé tôt, d'avoir couru dans tous les sens, d'avoir eu chaud, mais aussi de ne pas avoir mangé correctement pendant 7 jours. Quoi.
T'avais peur avant de partir?
Non, oh non, j'avais pas peur du tout.
Non,
j'étais même plutôt très excitée.
T'avais pas d'appréhension?
Je suis pas une trouillarde, alors c'est peut-être un peu irresponsable, tu vois, mais j'ai rarement peur, en fait. De toute façon, je pense que la peur n'évite pas le danger, mais tu vois, j'ai pas peur de prendre l'avion. Si l'avion bouge, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Voilà, donc avant d'y aller, j'avais vraiment pas peur, pour le coup. J'étais très excitée. Une fois que j'y suis allée, là, j'ai eu peur. Mais j'ai eu peur pour des bonnes raisons, tu vois. J'ai pas eu peur, je me suis pas projetée dans cette histoire de peur. C'est une peur qui te prend vraiment parce que t'as les jetons, quoi. Quand t'es perdu, t'es perdu. Quand tu retrouves plus ta caisse et que t'as pas pris ta balise, t'es pas bien. Quand tu te réveilles à côté d'un scorpion, t'es pas bien non plus. Tu vois, des trucs comme ça. Nous, on s'est allongés sous les herbes en attendant les secours et en fait, on s'est réveillés, on était là, oh mon Dieu, putain, j'ai fait un scorpion. On est revenus dans la voiture. Tu vois, des trucs comme ça, quoi.
T'avais une trousse de secours?
Ouais, bien sûr. Oui. Et puis, de toute façon, là, si t'arrives quoi que ce soit, encore une fois, tu déclenches ta SARSAT et ils viennent te chercher. Mais nous, on n'avait pas déclenché la SARSAT. Alors, on sait, On a eu une galère suite à cette MCC. Ici, c'est MCC. Oui, oui, non, c'était pas ici. Cette fameuse triangulation m'a amenée dans un oued, mais qui ressemblait pas à un oued. Donc, on a pris ce chemin qui ressemblait à une piste, tu vois. Et puis, plus on s'est enfoncé dans ce chemin, plus ça remontait sur les côtés. C'est là qu'on s'est dit, bon, a priori, c'est un oued. Parce que c'est comme un lit de rivière qui se creuse, tu vois. Donc, on ne pouvait plus remonter. Puisque il y avait plus,
sûr,
là, pour le coup, il y avait des mini falaises sur les côtés, quoi. Tu pouvais pas passer avec la voiture. Et accessoirement, ça devenait assez trial, donc tu passais ce qui s'appelle des marches en voiture. Donc c'est pareil, tu les passes pas dans l'autre sens. Tu peux pas les refaire en marche arrière, tes marches. Et puis, il a commencé à y avoir de l'eau dans le truc au milieu. Alors là, toutes les deux, on s'est dit, bon, alors attends. Moi, je suis désolée, hein, quand je regarde les chaînes de documentaires animaliers, là, et tout, tu vois les gros 4x4, ils passent dans les rivières, là, avec les hippopotames, ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc, on devrait y arriver. Donc, on a commencé à passer comme ça, d'une rive à l'autre de la rivière, tu vois, qui n'était pas profonde. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, le sol s'est transformé en terre glaise. Mais genre, un truc... D'ailleurs, je vous ai aussi envoyé une photo où tu vois la voiture, tu sens qu'il y a, un truc jusqu'au pneu comme ça. Et bon, bah là, on s'est enlisé et on ne pouvait pas sortir. On a sorti nos pelles en se disant, bon, allez, on y va. Tu fais ton premier coup de pelle pour enlever le truc. Le truc pèse 25 kilos. Je sais pas, tu dis, non, mais en fait, je peux pas. Parce que là, c'est pas un coup de pelle qu'il faut mettre, c'est 300. Si je peux pas soulever à chaque fois autant de kilos, on va pas y arriver, quoi. Donc là, on s'est dit, avant de déclencher bêtement, et de les faire venir pour rien, essayons, ou de creuser, si jamais on décide vraiment de se lancer, ou de creuser pour rien, allons voir où on est. Donc on est monté sur cette fameuse montagne, ce que je te racontais tout à l'heure, on ne trouvait pas notre chemin. C'est là quand tu montes en haut de la montagne et tu te dis, bon ben, en fait, tu as l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Il y avait un cirque comme ça de montagnes, rouge un peu noir, tu vois, rouge bordeaux, assez foncé. Et du caillou. Tu regardes ça et tu fais « Oh, mon Dieu !» Alors là, je me suis rendu compte que je souffrais d'un mal. Ça m'a fait un truc très bizarre, de trop d'espace, de trop de...
C'est du vertige presque.
Ouais, ça ressemble à du vertige, mais je crois que ça s'appelle de l'agoraphobie, qui peut être la peur de la foule et la peur des grands espaces aussi. Ouais. La peur des grands espaces. Et d'ailleurs, il se passe aussi un truc comme ça la nuit. Cette nuit-là, on n'a pas réussi à rejoindre aucun camp. On a dormi toutes les deux.
Comment t'as sorti déjà, excuse-moi, alors, ta voiture
de la
boue.
Oui,
quand même.
Parce que
nous, on est resté avec la voiture dans le
bed. Je saute les étapes. Bon, bah là, quand on s'est dit on est vraiment perdu, on est revenu à la voiture qu'on a fini par retrouver en se disant bon, bah laisse tomber, on déclenche. De toute façon, donc ça sert à rien qu'on essaye, qu'on se crève à décaisser la voiture. De toute façon, on ne sait pas où on est, donc il va bien falloir que quelqu'un nous remette sur la route, quoi. Donc là, on a déclenché la balise. Sauf qu'ils ont mis 6 heures à venir nous chercher. Ils ont été super longs. Et en fait, ils nous ont expliqué après, c'est que, et c'est un peu de notre faute aussi, mais comme on est passé d'une rive à l'autre, en fait, on était à la frontière de l'Algérie. Et selon la rive sur laquelle on se trouvait, on était au Maroc ou on était en Algérie. Et c'est apparemment, dingue. Pour eux, ça a créé un problème organisationnel d'envoyer des hélicoptères. Ils n'ont pas envoyé des hélicoptères, c'est une voiture qui est venue nous chercher, mais ça a posé un problème organisationnel et ils ne savaient pas comment venir nous chercher. Voilà, est-ce que c'était la voiture, est-ce que c'était l'hélico. Et du coup, ils ont mis 6 heures. C'est là qu'on s'est donc, parce que la voiture, elle est en plein cagnard, donc on s'est mis sous des espèces d'herbes, tu vois, des graminées qui faisaient un peu d'ombre pour pouvoir juste.
Être un peu au frais,
quoi, tu vois, parce que c'est. Et là, on s'est réveillé, on avait le. On peut plus passer de loin un truc, mais genre, c'est un scorpion qui nous a été confirmé par un mec plus loin qu'on a croisé. On a croisé un mec à vélo un jour, un Marocain à vélo, je te jure, en plein milieu du désert. Le gars, il était instituteur. Et on a parlé avec lui, il a dit, mais c'est plein de scorpions par là-bas, faut jamais. Ah ouais, super, merci monsieur. Et donc, finalement, ils sont arrivés à la tombée de la nuit et ils nous ont sortis avec un treuil. Et on a accroché à l'avant de la voiture. Ils avaient un énorme 4x4 de l'autre côté. Ils ont tiré la voiture et ils ont treuillé la caisse.
Et après ils nous ont dit, bail,
interdiction de nous suivre. Et là, tu pleures.
Mais ils te disent quand même où tu es sur la carte. Ils te remettent un peu...
Vaguement.
Okay.
Mais alors, très vaguement. Et je ne sais pas s'ils ont le droit. C'est vraiment parce qu'on pleurait, qu'on était là, on est complètement perdus. Donc, à un moment, je ne peux pas vous dire où vous êtes, mais vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Vous êtes... Bon, OK.
D'accord.
Et là, ils nous ont lâchés. On a essayé, tu vois, de les suivre à distance. Bon, évidemment, ils nous repéraient, mais sans être trop pushy, parce que sinon, pour le coup, tu tapes à nouveau des points en moins et tout, mais... Et puis, jusqu'au moment où la nuit tombait, on ne voyait plus rien. Donc, on s'est arrêté. Et là, on s'est arrêté. Donc, c'est là qu'on s'est arrêté toutes les deux, mais nulle part. Et là, autre truc hyper chelou, zéro bruit. Zéro. Et bien, on n'est pas habitués, en fait, nous. On ne sait pas ce que c'est de ne rien entendre. C'est rien. Tu mets tes oreilles en mode genre, ok, là, ouf, je suis hyper concentrée, il n'y a rien. C'est très bizarre. Mmh. Non, mais comme quoi, alors oui, maintenant, avec le recul, tu dirais, c'est pas de pollution, puis alors zéro pollution lumineuse non plus. Donc des étoiles, wow, un truc de fou. Pas de pollution sonore, c'était très étrange. Ça, moi, ça m'a fait un truc un peu comme un vertige. Voilà.
D'accord.
Ça m'a pas forcément fait du bien.
Que tu as ressenti après dans d'autres voyages, etc. Ou vraiment là, c'était avec toute cette expérience globale, en fait, il y a quand même tout un truc.
Non, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti que là. Parce qu'après, j'ai, pour le coup, dans la vie, j'ai fait des trucs, j'ai fait de la montgolfière, j'ai fait de la voltige aérienne avec la triple championne du monde de voltige aérienne, j'ai fait du planeur. J'ai pas eu cette sensation, tu vois, de. Parce que c'est oppressant, en fait. Mmh. Ça, voilà. Ça, je l'ai eu, ouais. Et je l'ai eu à plusieurs reprises pendant cette aventure, à me dire, mais waouh, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. C'est fou, c'est des sensations que je n'avais jamais expérimentées, quoi.
Alors moi, c'est très pratique, mais si tu pars avec ton roadbook le matin,
ouais.
Et les jours où justement, tu n'es pas au départ du camp, tu es toute seule dans la campagne, là, qu'est-ce que tu fais alors?
Alors, tu as ton roadbook sur le reste.
T'as pour juste tout
pas
le voyage.
Tu as le roadbook pour d'accord, tout, mais tu n'as pas ton briefing. C'est quand même important d'avoir ton briefing. Tu n'as pas ton brief. Et accessoirement, tu as, par exemple, quand tu as ce que j'appelle des étapes marathon sur deux jours, tu pars avec, tu as le brief, tu as tous les détails pour les deux jours, de toute façon. Quand c'est toi qui t'es planté, bah, tu improvises un peu. Bon, disons d'accord, que c'est très embêtant de ne pas être au camp, de ne pas avoir ton brief, de pas. Et puis même, c'est psychologiquement difficile aussi parce que tu ne te douches pas, tu es pleine de sable, tu passes ta vie, je te jure. Oh, mais le sable, on en avait partout, dans les trous de nez, dans les trous des oreilles. Chaque fois que tu serres les dents, ça faisait. Les pompes, les fringues, tout est plein de sable. C'est la poussière, ça rentre partout. C'est hallucinant.
C'est un vrai défi, quoi.
Ah ouais, vraiment, quand tu prends ta douche, t'es contente, quoi. Et d'ailleurs, le jour où on s'est perdu, le lendemain, on a réussi à retourner au camp avant qu'il déplie, parce qu'on est parti vraiment en première lueur du jour. On a réussi à retrouver le camp. Eux, ils étaient tous en train de se préparer pour partir. Nous, on a pris du retard exprès parce qu'on voulait se doucher. On voulait appeler nos... Ah oui, parce que quand t'es au camp, tu peux appeler ta famille.
D'accord.
Dominique Serra, super mignonne, nous a passé son téléphone satellite pour qu'on puisse appeler nos enfants. On était, les deux, on était au bout de notre vie. On pleurait. C'était horrible. J'appelais ma fille, chialais. C'est pour ça que tu sais, quand je regarde Koh-Lanta, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de compassion pour ces gens. Quand ils se mettent à pleurer pour un oui, pour un non, je suis « Ah, mais oui, je comprends. »
Moi, je sais.
C'est difficile, c'est normal.
Tu penses qu'eux, ils ont un GPS sur ta voiture? Parce que quand même, au cas où tu te paumes vraiment...
Ah bah, ta Sarsat, c'est un GPS. T'as
balayé Sarsat. Donc eux, ils peuvent savoir où tu es quand même. Même si tu la déclenches pas, je veux dire.
Oui.
Ils ont sans doute une carte où ils voient où sont un peu toutes les voitures. Oui. Parce que si à un moment, tu commences vraiment à partir en Algérie, on va peut-être te dire...
Bien sûr.
Vous êtes vraiment loin, les filles.
Oui, oui, évidemment. Non, ça, ils peuvent surveiller. Et ils peuvent d'ailleurs venir... Alors, ils peuvent pas te contacter. En revanche, ils peuvent venir avec leurs moyens, leur 4x4 à eux, et te dire « Oh là là, vous n'êtes pas parti du bon côté ».
Vous vous êtes engueulé dans la voiture un peu ?
Non, pas particulièrement dans la voiture. On s'est engueulé après, en fait, mais ça te met à bout. Tu vois, encore une fois, ce truc, c'est très difficile physiquement et psychologiquement. C'est très éprouvant, c'est-à-dire quand tu te perds, tu vois, quand tu fais une connerie comme ça, bah, c'est moi la responsable. Donc, je comprends qu'elle m'en veuille, tu vois, qu'elle puisse se dire « Putain, Marine, elle a déconné, quoi, résultat des courses. » Tu vois, il y a un truc, même si tu sais que t'es une équipe et que t'es à deux sur ce truc, tu peux te dire ça, quoi. Et je pense que c'est ce que Carole a dû se dire, d'ailleurs. Elle a dû se dire « Putain, elle fait chier, là, l'autre. » Elle a cru qu'elle avait repéré la montagne et machin, c'était pas la bonne, et elle nous a plantés. Mais tu tiens, et puis de la même manière, moi, je me suis aussi dit « Ok, bon, je me suis plantée, c'est de ma faute, mais en même temps, c'est moi qui fais la nave. Donc, tu vois, si elle pouvait m'aider un peu plus dessus, peut-être que je me serais pas plantée. » Enfin, t'es typiquement dans tous les schémas, tu vois, de rejeter la faute sur l'autre dès que tu peux, comme dans un couple, en fait, un petit peu. Hein,
moi,
tu vois.
Peux pas le faire avec mon mec, je pense.
Ah oui, non, c'est...
Tu vois, quand tu te poses avec ton mec en voiture,
un couple comme ça dans un rallye, mais c'est mort, tu divorces à la fin.
Et ce qui est marrant, quand même, non?
Ben oui et non, parce que c'est...
Peut-être t'as moins de filtres, en fait, quand t'es avec ton mari ou ton mec, ou tu vois.
Ouais, peut-être aussi, oui. Mais naturellement, tu prends moins sur toi, parce que tu connais très bien, et puis que c'est tellement facile de reporter la faute sur... Non, pas du tout, c'est absolument pas un rallye à faire. De toute façon, les hommes sont bannis. Mais par exemple, je pense à un couple de femmes, je pense que c'est une connerie, il ne faut pas le faire non plus.
C'est un couple où ça ne marche pas. Voilà, bien sûr, oui, peu importe que ce soit un garçon ou une fille, t'as raison, mais le couple, là, en tant que cellule familiale,
n'y résisterait pas, je pense.
Et alors, quelle est l'ambiance le soir au bivouac, quand tu y arrives?
Oui, c'est ça, quand tu as la chance d'atteindre le bivouac, de le trouver. C'est très bon enfant. En fait, c'est ce que j'imagine d'un bivouac masculin, sauf qu'il n'y a que des gonzesses. Donc, il n'y a pas de rapport comme ça, de séduction... c'est très brut. Et en même temps, il se passe un truc assez drôle. Tu manges, c'est des grandes tables, tu te mets un peu par affinité, en fait, avec les filles avec qui tu as sympathisé. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'à ce moment-là, d'ailleurs, pendant tout le temps du rallye, tu n'es plus dans ta vie. Tu es dans ton aventure, en fait. Donc, tu ne parles que de ça. C'est-à-dire que quand tu te retrouves le soir avec les copines, c'est « Ah, nous, on a fait ça. Ah, nous, on a crevé. Nous, on a machin. Ah, nous, oh, on a rencontré un mec qui nous a aidés dans les dunes. » D'ailleurs, on s'est fait aider. On n'avait pas le droit. On s'est fait aider dans les dunes par des bédouins, tu sais, des gars hyper couverts. On était complètement enlisés. On n'y arrivait pas. Il y a un mec qui s'arrêtait. Il a proposé. Il était avec son chameau. Mais un truc, mais trop drôle. Il nous a aidés à le faire. On n'a rien dit, on a fermé nous.
C'est totalement interdit ?
Bah non, t'as pas le droit de te faire aider maintenant.
Et comment ils peuvent te checker ?
Ils te surveillent à la jumelle. C'est comme de la même manière qu'il faut garder ton casque dans la voiture, ils te surveillent à la jumelle. Et s'ils voient que t'as enlevé ton casque, ils t'enlèvent des points. T'as des points de pénalité. Bon, là, on s'est pas fait choper. Mais bon, il nous a pas non plus porté la voiture, le gars. Hein, mais tu vois, on galérait sur un truc et c'est lui qui allait mettre mieux la grille là, que tu mets sous la roue pour la désensabler, tu vois. Parce que les dunes, il faut les passer vite. Ah oui, alors ça aussi, ça fait partie des trucs que tu as au brief le matin, que tu as appris d'ailleurs aussi pendant ton stage, mais on te répète tout ça. Les dunes, tu es obligé de les passer très tôt, il faut qu'elles soient froides. C'est-à-dire parce que quand le soleil chauffe le sable devient plus mou. Pendant la nuit, avec la condensation, un peu d'humidité et tout, il fait froid la nuit dans le désert, le sable se durcit. Et là, tu le passes plus facilement. Si tu la passes, si tu traînes trop, si tu prends trop de temps à les passer, donc si tu dois faire des choix comme ça dans ton parcours, si tu arrives à la dune, je dis n'importe quoi, à midi ou 13h, bah ça vaut peut-être le coup que tu t'arrêtes là, en fait, tu dormes là, et que tu passes le matin au lever du soleil.
D'accord, ok.
Donc ça, c'est le truc que tu as au brief, tu vois. Bah oui, ça, c'est un petit tuyau. Tu t'enlises. Et là, quand tu t'enlises, bah vas-y, parce que quand tu es coincé dans les dunes, le problème, c'est que tu vas t'enliser une fois, puis tu vas t'enliser une deuxième fois, puis une troisième. En fait, à la fin, tu as envie de tuer tout le monde, y compris ta voiture et ta coéquipière. Il n'y a personne à tuer à part ta coéquipière, c'est embêtant.
Est-ce qu'il y en a qui ont dû arrêter ?
Ouais, bien sûr. Il y a eu, des accidents. Il y a peut-être eu aussi des arrêts pour maladie, parce que ça peut arriver. Hein. Mais je sais qu'il y a cette nana dans les dunes là, qui s'est pris une dune. Et, donc ça, t'en entends parler dès que t'arrives. C'est vraiment... Oh là là, ça bruisse, tu sais, c'est loin, t'as vu, Bernadette, elle est tombée. Bah c'est ça, en fait. Et quand tu passes les dunes, tu es obligé de systématiquement repérer à pied parce que selon le vent, les dunes, elles ont l'air comme ça, tout, tu vois, de prendre, comment dire, d'avoir un dénivelé assez régulier. Elles ont l'air assez rondes. Mais en fait, de l'autre côté de la dune, elle peut être complètement, pour peu que le vent est
totalement
soufflé face à ça, elle peut être complètement abrupte. Donc si tu ne vas pas te checker avant avec tes yeux que derrière, ce n'est pas un précipice et, tu vois, et une dune en mode abrupte, eh ben, tu prends ton élan pour passer la dune parce qu'il faut prendre de l'élan et derrière, bim ! Et pour peu que ta voiture tombe mal, ben voilà, tu peux te blesser. Il y a Nana qui s'est blessée au cervical, etc. Donc oui, bien sûr, elle a arrêté. Ouais, il y a eu des abandons quand même. Il y a eu des abandons. Mais bon, pas tant que ça. C'est, encore une fois, c'est pas un rallye dangereux. Mais ça reste une prise de risque, évidemment. C'est sûr que tu prends plus de risques en restant les fesses dans ton canapé, quoi.
Tu dirais quoi à celles qui veulent se lancer ?
Ah, je leur dirais faites-le vraiment, et tu vois, et à toi, si t'as envie de le faire, je te dirais fais-le, parce que c'est une expérience hallucinante, mais dont tu te souviendras toute ta vie, dont tu seras fière toute ta vie, parce que tu te surpasses, tu sors tellement de ta zone de confort, il n'y a même plus de zone, en fait, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus de confort du tout, donc la zone, tu la cherches. Où est ma zone de confort ? C'est mon micro-matelas que je gonfle, tu vois, le soir pour m'endormir en me disant, bon, c'est pas grave, j'ai du sable dans les yeux, j'ai du sable dans les trous de nez, mais je vais quand même m'endormir. Et oui, j'ai faim et j'ai pas mangé, et là, j'ai envie de rentrer chez moi et j'ai envie de voir ma fille. Mais une fois que tu l'as fait, ça t'apprend tellement sur ta capacité, ta propre capacité à surmonter plein de choses qui, sur le papier, te semblent insurmontables. Ça t'apprend même pour d'autres choses de ta vie, en fait. Donc, je pense que tout le monde devrait un jour se dépasser d'une manière ou d'une autre comme ça, mais aller plus loin que, sur le papier, ce qui leur semble capable de faire, quoi.
On s'étonne nous-mêmes, quoi.
Exactement.
C'est
exactement.
Ça qui est assez extra.
Et puis surtout, derrière, ça te donne cette conscience du fait que... Ouais, mais en fait, je peux le faire, quoi. Je peux le faire. Et sincèrement, moi, aujourd'hui, il y a peu de choses dont je me dis, je peux pas le faire, en fait. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, mais je me trompe peut-être. Il y a peut-être sûrement, bien sûr, plein de choses que je peux pas faire. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Et jamais, je me dirais, je fais pas quelque chose parce que non, je crois que je peux pas le faire. En fait, plus jamais. Vraiment.
C'est génial. C'est la meilleure leçon que tu peux tirer de cette aventure.
Exactement. Mais c'est très important. Et vraiment, j'invite les nanas qui manquent peut-être un peu d'assurance, un peu de confiance et... À vivre ce genre d'expérience, que ce soit celle-ci ou une autre, hein, mais quelque chose qui te force à aller, à te dépasser et encore une fois à sortir de ta zone de confort et à te réinventer pour pour se donner les clés dans le reste de la vie sur leur capacité à en tout cas à tout essayer. Tout doit s'essayer. Il n'y a rien dont on doit se dire « je ne peux pas le faire parce que je sais que je ne peux pas le faire ». Ça, ce n'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas.
Merci. Et le seul truc que je voulais te redemander, donc tu nous dis la fin, on annonce le classement, mais c'est un truc un peu officiel. Comment c'est le dernier soir? Parce que tu me dis en même temps, vous êtes morte. Donc en fait, tu as vraiment envie d'une douche, d'aller te coucher. Mais est-ce que tu as aussi un peu envie de faire la siesta avec les filles?
Quand tu arrives, quand tu tapes ta dernière balise ou que tu arrives au dernier camp, voilà, je crois que le dernier camp est au niveau de la dernière balise, tu as le classement. Donc, encore une fois, tu te déplaces, tu vas voir ton classement, d'accord? Et après, ça tchatche entre équipes. « Ah, t'as fini combien? Et toi, t'as eu un? Ouais, super, ouais, bien. Oh. Ouais, non, nous, laisse tomber, on s'est planté. » Bon, voilà. Derrière, on part tous à Marrakech, on dort tous à l'hôtel, dans le même hôtel. On est au Mercure, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc qui était prévu par l'organisation. Et le soir, il y a un dîner de gala. Donc là, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que tu vois toutes les gonzesses ressortir de leur chambre que tu as vues pendant 10 jours, en treillis, avec les patogas, les débardeurs, du sable plein les cheveux, etc. Tu les vois toutes arriver avec la petite robinette, le make-up, le cheveu nickel.
Et là, ça, t'avais mis ça au fin fond de ta malle.
Nous, en fait, alors c'est pas le cas de toutes les filles, d'accord, mais nous, nos maris nous avaient rejoints, donc ils nous les avaient apportés.
D'accord.
Donc ils étaient avec nous pour la soirée de gala avec nos enfants. C'est sympa d'ailleurs, tu vois, pour le coup, quand on est arrivé à l'hôtel, tu retrouves ta famille, t'es là. Je me disais, c'est vache pour celles qui n'ont pas pu faire ça parce que
c'était du bien.
Ouais, c'était agréable. Et donc, tu croises après les nanas dans le couloir. Il y en a certaines que tu ne reconnais même pas. Genre, oh, Sylvie, je ne t'avais pas reconnue. Oh, t'es belle comme ça et tout. Tu vois, c'est drôle. Et puis après, donc, on est à table et puis il y a des discours, des machins. Et ensuite, Dominique Seurat annonce le classement. Et derrière, tu vas chercher ton prix, ton truc, et puis voilà, puis c'est fini. Puis après, le lendemain, dès le soir même, il y a des nanas qui repartaient et d'autres qui restaient jusqu'au dimanche soir. Et puis voilà. Nous, on s'était dit que comme les maris et enfants nous avaient rejoints, on prolongeait 2-3 jours à Marrakech pour décompresser. Et c'était pas du luxe.
Et ta voiture?
Et ma voiture?
Tu l'as abandonnée où, cette voiture?
Alors, deux options. Tu peux la remonter toi-même ou la faire convoyer. Ça coûtait un peu plus cher de la faire convoyer, mais on a pris l'option.
Mais tu l'as quand même conduite jusqu'à Marrakech ou tu l'as vraiment laissée sur la dernière balise?
Non, on l'a ramenée à Marrakech.
Donc, tu es revenue toi aussi à Marrakech avec
ta voiture? Ouais, on n'était pas très loin. Ou alors, est-ce qu'on l'a laissée sur la dernière balise? Oh, je ne sais pas. Plus, fille, okay. Toi. On est rentrés à Marrakech avec. Hein.
D'accord.
Et après, en revanche, elle a été prise en charge par les équipes du rallye ou du constructeur, je ne sais plus. Et
elle rentrait à Marrakech.
Je ne l'ai plus jamais revue. Ma petite titine.
Merci beaucoup. Maintenant, je rêve de le faire.
C'est bon. Tu rêvais déjà avant.
Un peu. Mais là, tu m'as donné vraiment envie et je trouve ça trop bien. Merci d'être allé chercher tes souvenirs.
Avec grand plaisir. J'espère qu'ils étaient encore suffisamment affûtés.
En tout cas, ils nous ont fait rêver et voyager. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite. Merci et à bientôt.